Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du MAG de l'aménagement du logement et de la nature avec un numéro consacré à la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, dite loi SRU, qui fêtera ses 25 ans, ce sera ce samedi 13 décembre. C'est l'occasion évidemment de revenir sur les origines de ce pilier des politiques de l'habitat et de la mixité sociale. Où en est la production de logements sociaux? Comment la loi a-t-elle évolué depuis 25 ans? Pour prendre en compte les contextes locaux, qu'a apporté la loi 3DS du 21 février 2022, loi différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l'action publique locale. Eh bien, pour nous en parler, nous accueillons ce matin Benoît Chantoiseau. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Benoît, vous êtes directeur de la mission d'appui SRU, direction de l'aménagement, logement et nature pour les ministères transition écologique, de l'aménagement du territoire et de la ville et du logement. Je suis également accompagné, comme sur chacune de ces émissions, d'Hélène Parmentier. Bonjour Hélène.
Bonjour Jean-Baptiste.
Ça va bien ?
Très bien.
Eh bien, vous êtes chargé de mission mobilisation des territoires au sein de la DGALN au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Et vous relayerez évidemment tout à l'heure les questions de nos auditeurs, puisqu'effectivement, cette émission est à suivre en live et vous pouvez directement par le chat interpeller notre invité de ce matin et lui poser vos questions. Benoît, peut-être cette première question, justement, est-ce qu'on peut tout simplement peut-être rappeler ce qu'est la fameuse loi SRU et pour rappel, quels étaient les objectifs initiaux en 2000?
Absolument, on va faire un peu d'historique. La loi SRU est un héritage de deux autres lois, la loi LOVE, donc la loi de l'orientation pour la ville, et la loi Besson. Dans les années 90, on commence à parler de questions d'urbanisme et de mixité sociale. La loi Besson en 1990 souligne la nécessité de diversifier l'habitat et de regarder la question de la composition sociale des quartiers et des communes. La loi LOVE, donc d'orientation pour la ville, en 91 prend en compte pour objet la lutte contre la ségrégation socio-spatiale. Sur la base de ces deux lois, on commence à parler de lutte contre les ghettos, on commence à parler à traiter la question de la spécialisation de certains quartiers. Qu'on a encore aujourd'hui. Sur cette base, les résultats sont assez peu concluants, on n'a pas d'objet incitatif, on n'a pas d'objet coercitif, on a des résultats qui sont assez mitigés. Et donc la loi SRU intervient en 2000 pour poser un objectif de réalisation pour les communes, c'est-à-dire, et je dis la loi SRU par abus de langage, mais l'article 55 de la loi SRU, qui est un de ses dispositifs phares, pose l'obligation pour les communes d'avoir un quota de 20% de logements sociaux en 2025 pour les communes qui sont au-dessus d'un certain seuil de population, 3500 habitants en France, hors Île-de-France, et 1500 en Île-de-France, avec une approche unité urbaine. Mais donc, cette obligation d'avoir un minimum de logements sociaux et trois dispositifs qui y sont accolés. Un premier dispositif qui est un mécanisme de rattrapage, c'est-à-dire dire, bon, d'ici 2025, il faut atteindre 20% de logements sociaux. Fixons un trend, un objectif de réalisation par commune à atteindre tous les 3 ans. C'est de là que part tout le mécanisme triennal qui existe encore aujourd'hui. Donc premier mécanisme, un mécanisme de rattrapage et d'objectif assigné aux communes. Deuxième mécanisme, un mécanisme de prélèvement, un peu plus coercitif, il faut le dire, calculé sur la base des logements manquants, qui doit inciter aussi les communes à produire, qui est calculé. Enfin, je vous épargne la formule. Et troisième mécanisme, qui est peut-être le mécanisme qui, à mon sens, est le plus pertinent et celui qui marche le mieux, c'est le mécanisme des dépenses déductibles. C'est-à-dire que sur la base de ce prélèvement, les communes peuvent déduire chaque année l'ensemble des investissements qu'elles réalisent pour la production de logements sociaux, que ça soit de la subvention directe, que ça soit de la minoration foncière sur des terrains qui appartiennent à la commune et qui sont cédés. Et donc, elles peuvent déduire, on est sur un effet vraiment d'encouragement. On est sur un principe de loi qui vise vraiment à la fois encourager le développement de la production et à garantir une répartition équilibrée des logements sociaux sur les zones les plus tendues pour favoriser la mixité sociale. Voilà, les trois dispositifs, je veux quand même rappeler que ce mécanisme de dépenses déductibles est un mécanisme qui marche, qui fonctionne toujours aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée sur les derniers chiffres qu'on a, qui sont les chiffres de 2024, le montant global de toutes les communes concernées par les prélèvements avant prise en compte des dépenses déductibles est de l'ordre de 228 millions d'euros, ce qui est une somme assez conséquente. Dans le même temps, l'ensemble des communes investissent et font valoir en dépenses déductibles de l'ordre de 312 millions d'euros. Ça ne veut pas dire que toutes les communes participent, mais ça veut dire qu'on a quand même un montant global d'investissement qui est des communes qui est supérieur à ce qu'elles devrait être prélevé, et donc on a énormément de communes qui aujourd'hui en fait ne sont pas prélevées parce que on a un mécanisme qui permet de réinvestir directement l'argent des collectivités, de flécher les dépenses des collectivités vers la production de logement social. Donc, on est vraiment là-dessus sur un mécanisme qui me semble assez vertueux.
Ok, et donc un dispositif qui fonctionne. Mmh. Alors, je le disais donc en introduction, ce samedi 13 décembre, on fête les 25 ans de la loi SRU. Donc, c'est bien de pouvoir faire un moment, un break là, et de faire finalement un point et de savoir finalement quelles ont été les évolutions depuis ces 25 dernières années.
Oui, alors, il y en a eu une. Beaucoup. Je crois que toutes les lois logement ont un petit peu touché SRU. Il y a une évolution qui est beaucoup plus marquante que les autres, qui date de 2013, c'est la loi Duflot. La loi Duflot pose deux choses principalement, alors beaucoup d'autres choses, mais elle porte l'objectif à 25% au lieu de 20%. Ce faisant, elle agrandit nécessairement le périmètre des communes concernées, c'est-à-dire toutes les communes entre 20 et 25% qui se retrouvent soumises à des objectifs. J'aime pas trop ce terme soumise, qui ont l'obligation de rattraper et de produire peut-être un peu plus, et elle pose une obligation de production qualitative. C'est-à-dire que pour les pros du logement social, vous savez qu'on a une offre qui est assez segmentée avec un logement social un peu classique qu'on appelle le PLUS, une offre à destination des ménages vraiment les plus précaires qui est le PLAI, et une offre qui est un petit peu plus haut de gamme qui s'appelle le PLS. Et donc, avec la loi Duflot, on demande aux communes de produire un minimum de 30% de logements très sociaux PLAI et un maximum de 30% de logements moins sociaux PLS. Mmh. L'objet, c'est toujours d'avoir une production équilibrée. C'est aussi d'éviter peut-être des contournements de certaines communes qui ont préféré peut-être produire des logements étudiants ou des EHPAD en PLS, en logements moins sociaux, plutôt que de répondre aux besoins des familles. Et donc, on a ce qui reste encore aujourd'hui, grâce à la loi Duflot, un objectif à 25%, qui peut être abaissé dans certains cas pour les communes pour lesquelles la tension ne mérite pas qu'on aille jusqu'à 25%, c'est-à-dire que si l'offre répond déjà à la demande, il est légitime de ne pas demander plus, et une production qu'on entend équilibrée entre les différents types de produits.
Donc ça, c'était pour la loi Duflot.
Ça, c'est la loi Duflot.
Il y a une autre évolution en 2018 avec la loi Elan, c'est ça ?
Absolument, la loi Elan qui a des petits ajustements. Toutes les lois ont eu des petits ajustements, toujours dans une recherche d'équilibre, de prise en compte des logements en accession aidée, d'assouplir aussi le rythme de rattrapage pour les communes nouvellement entrantes, considérant qu'une commune, du fait d'une évolution du seuil de population qui est rentrée en 2020, n'aurait pas pu atteindre les 25% en 2025. On est toujours dans cette recherche d'adaptation et c'est ce qui est recherché un peu dans toutes les lois, au-delà de la loi Elan qui a été assez marquante, mais finalement toutes les autres. C'est comment on arrive à un système équilibré pour accompagner les communes, enrichir parfois le spectre des logements comptabilisés, c'est-à-dire l'accession aidée, le BRS, les terrains familiaux pour les gens du voyage, les dispositifs d'hébergement d'abord. Donc ouvrir ce spectre, prendre en compte les spécificités des communes, typiquement les communes inconstructibles, il est logique de ne pas leur demander de produire plus puisqu'elles sont inconstructibles, la prise en compte des risques climatiques, des motifs d'exemption en fait. On essaye d'adapter à chaque fois la loi avec une approche équilibrée entre il faut être ferme parce qu'il y a un objectif derrière et il y a 2,8 millions de demandeurs, il faut être ferme avec les communes qui ne veulent pas produire, mais il faut aussi accompagner les communes qui sont volontaires, mais qui ont des difficultés objectives, légitimes, et qu'il faut essayer d'accompagner. C'est tout le sens des lois des 10 dernières années.
Et donc, il y a une autre loi aussi qui va apporter finalement d'importantes évolutions à la loi SRU. C'est la fameuse loi différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, dite 3DS, la fameuse. Qu'est-ce qu'elle a engendré, elle ?
Mais merci de m'avoir évité le sigle. la loi 3DS est part du constat en 2020-2021, quand la loi est discutée, qu'on a deux problèmes. On a un premier problème qui est l'atteinte du 25% en 2025 qui conduit dans les communes qui ont pris du retard à avoir des objectifs qui sont totalement irréalistes, puisqu'on a cette date butoir et on a un mode de calcul des objectifs qui calcule la différence finalement en nombre de périodes triennales, pardon les techniques, un nombre de logements à produire d'ici 2025, mais qui conduit à des objectifs qui, dans les communes les plus éloignées, sont complètement irréaliste et qui décourage les communes. Et puis on a surtout le quid de l'après 2025. On a des objectifs à 2025, mais la loi ne dit rien de ce qui se passera en 2026, dans quelques jours. Et donc la loi 3DS vient supprimer la date butoir qui était initialement prévue pour rentrer dans une logique continue, c'est-à-dire en fonction de votre situation, de votre date d'entrée dans SRU, on allège les objectifs en entrée de période quand vous êtes nouvellement entrante pour pas que vous ayez des milliers de logements à produire dans les 3 ans du jour au lendemain, et on adapte les objectifs jusqu'à atteindre 25%. C'est la première chose, c'est un point qui est très important, qui prolonge finalement quand même le dispositif au-delà de 2025. Et on entre beaucoup plus dans une logique de différenciation avec les contrats de mixité sociale, avec les possibilités au local de renégocier les objectifs, c'est-à-dire à la fois pour les communes de faire valoir des difficultés réelles, objectives, mais aussi pour l'État de demander des adaptations, des plans locaux d'urbanisme, de mise en œuvre des partenariats, de mobiliser l'ingénierie des EPCI, de mobiliser l'ingénierie des EPF. Et donc on est sur un principe qui est plutôt un principe, alors que l'État était peut-être un peu trop gendarme avant, plutôt sur un principe de contractualisation pour accompagner les communes.
Dans quelle mesure finalement cette loi SRU incite aujourd'hui les communes à faire des efforts ou peut-être à faire plus d'efforts en faveur du logement social ?
Je crois qu'aujourd'hui on est dans une logique où les communes, j'essaye d'être résolument optimiste et positif, puisque c'est un anniversaire, c'est les 25 ans de la loi SRU, on a eu pendant une période des communes qui étaient ouvertement opposées à la production de logement social, qui étaient opposées, j'ai pas d'autres mots. Aujourd'hui, ces communes, elles sont de moins en moins, et pour ainsi dire, il y en a quasiment plus. Aujourd'hui, tout le monde, grâce à la loi SRU, je crois, a bien compris qu'il était normal, légitime de demander à l'ensemble des communes, et c'est une question de solidarité territoriale aussi, notamment à l'échelle des EPCI qui ont cette compétence le plus souvent de production, d'avoir une production équilibrée, de pas recréer des ghettos, de faire de la mixité sociale. Je crois que le point, au-delà de la question des objectifs très comptables, je crois qu'on va y venir après, le point qui est très important, je pense, c'est qu'aujourd'hui, quasiment toutes les collectivités sont conscientes qu'il y a un sujet sur le logement, qu'il y a une tension sur le logement, et que leur responsabilité aussi pour accueillir les habitants, c'est de flécher une partie de leur production vers ces logements sociaux. C'est quand même un changement de mentalité en 25 ans qui est assez majeur.
L'idée, c'est que le dispositif doit permettre de, quelque part, reconnaître, encourager aussi les efforts qui ont été faits, même si les taux n'ont pas encore été atteints.
Bien sûr, et c'est à la fois, je pense surtout la logique du contrat de mixité sociale. Alors, il y a le mécanisme de dépenses déductibles qui est un encouragement à produire, qui est aussi finalement quelque part une preuve que la commune veut y aller, c'est-à-dire quand une commune dépense plus, et il y a beaucoup de communes qui sont dans ce cas-là, dépensent beaucoup plus que ce que pourrait être son prélèvement pour produire, c'est déjà un signe que la commune est volontaire. Je crois qu'avec les contrats de mixité sociale, on arrive on arrivera, parce qu'on fera le bilan post-3DS de la période 2023-2025, on le fera au printemps prochain, mais on a déjà quelques idées, on voit déjà un peu ce qui se passe. Je pense qu'il faut se dire que signer un contrat, c'est pas ça qui permet de produire des logements. Sinon, ça serait très facile. C'est pas ça qui répond à la crise du logement. Néanmoins, ça permet d'objectiver les efforts qui sont faits, les efforts qui sont réels, objectifs de la commune qui met en place des outils via son plan local de l'urbanisme, qui met en place des contractualisations, qui met en place dans son PLU des clauses de mixité sociale, des emplacements réservés, qui fait valoir des... Enfin, qui mobilise aussi l'ingénierie de la collectivité. Et il faut que nous, côté État, on soit aussi capable d'accompagner ce moment. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable de mettre peut-être un peu plus de subventions que de la moyenne sur les projets dans des communes déficitaires, où on pressent quand même que le foncier est peut-être un peu plus cher que la moyenne, où la... Les projets sont peut-être un peu plus compliqués à monter. Il faut aussi que côté État, on soit capable d'accompagner ces dynamiques, d'y mettre les subventions nécessaires pour faire sortir les projets, d'être attentif aussi à la qualité des logements. Je crois beaucoup et je le dis en étant très conscient qu'aujourd'hui, je crois que la production de logements social est de très bonne qualité. Les bailleurs sociaux font des choses vraiment belles. Il y a aussi un côté démonstrateur des projets qu'on fait dans des communes qui sont peut-être peu dotées ou il peut y avoir une certaine crainte de voir arriver une grande barre HLM comme on faisait dans les années 60-70. Aujourd'hui, on fait plus ça. Aujourd'hui, on fait des beaux bâtiments qui sont très qualitatifs, beaucoup plus qualitatifs, je crois, que le reste de la production, lié aussi au fait que les bailleurs, quand ils produisent, s'engagent sur des logements à louer qui dureront au moins 40 ans, souvent 80. Donc, il y a vraiment une approche qualitative des bailleurs sociaux. C'est des démonstrateurs. Ces projets-là sont des démonstrateurs. Il faut qu'on les accompagne. Voilà.
Démonstrateurs des communes qui agissent, à l'inverse de celles qui sont peut-être un peu inactives encore.
Ouais, il y a des communes inactives. Il y a un mécanisme qui est aujourd'hui équilibré. Il y a des difficultés réelles, je crois. J'ai beaucoup d'exemples et je ferai pas de name shaming, mais de communes qui sont souvent pointées du doigt et qui produisent beaucoup et qui dépensent beaucoup, justement pour ne plus être pointées du doigt, mais qui sont aussi confrontées à des difficultés. Enfin, le principe du logement social, c'est de sortir des logements qui ont des loyers qui sont autour de 7 euros le mètre carré. Donc, quand le prix du logement est à 10 000, 15 000 euros le mètre carré, équilibrer une opération, c'est compliqué.
Évidemment.
Voilà.
Évidemment. C'est l'occasion aussi de tirer un bilan, finalement, aussi, cet anniversaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire, justement, du bilan de la loi SRU aujourd'hui ?
Ouais, alors, c'est le bilan très comptable.
C'est
un
chiffres.
Premier bilan. Je précise quand même que le bilan, pour nous, le vrai bilan sera fait plutôt début 2026, quand on aura les résultats de l'année 2025, qui sont en cours et qui sont assez encourageants. C'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on regarde le bilan de la production des logements sociaux des 25 dernières années, depuis le début de la loi, on a eu globalement des objectifs qui ont été très régulièrement respectés. On était de l'ordre de 140 à 150, voire 160 en 2008-2010, de taux de réalisation sur une période avant la loi du flot, donc quand les objectifs étaient visés, les taux cibles étaient à 20%, on avait des objectifs qui étaient de l'ordre de 60 000 logements à produire sur 3 ans. On arrivait au final avec des 150% de réalisation.
Ça n'a pas toujours été vrai dans la durée.
Ça n'a pas toujours été vrai dans la durée. On est redescendu à... C'est vrai, vous êtes dur. On est redescendu à autour de 107-110% après la loi du flot, mais avec des objectifs qui étaient augmentés, avec aussi des communes qui rentraient dans le dispositif. On a eu un élargissement du périmètre. Et puis, on a eu des résultats qui étaient décevants. En 2020-2022, on est tombé à 68% de réalisation, avec un objectif qui était quand même très supérieur du fait de ce seuil à 25%, avec des réalisations qui étaient aussi compliquées, c'est-à-dire que personne n'ignore qu'entre 2020 et 2022, on a eu une petite crise sanitaire qui a un peu bloqué les projets. On s'attend à ce que la prochaine période, je le dis avec honnêteté, avec transparence, on s'attend à ce que la prochaine période, et même s'il y a du mieux sur 2025, soit pas exceptionnelle. On a eu une augmentation massive des coûts de la construction. On a eu une augmentation assez massive aussi des prix immobiliers. Il faut savoir que les bailleurs empruntent sur des taux qui sont indexés sur le livret A. Donc quand le livret A passe de 1 à 3%, le prêt des bailleurs, la charge du prêt des bailleurs triple. C'est pas des petites dépenses pour un secteur qui emprunte beaucoup, parce qu'il produit beaucoup. On a des résultats ces dernières années qui sont pas nécessairement à la hauteur de ce qui serait attendu, même si je suis résolument optimiste ce matin. Et je pense que l'année 2025 va être une bonne année.
Oui, et puis sur 25 ans, de toute façon, il y a une vraie dynamique qui est là, et ça, on peut pas le nier. Vous vouliez aussi rajouter peut-être quelque chose sur le bilan toujours comptable, sur la proportion de logements, notamment autorisés en commune déficitaire.
Absolument. La Commission nationale SRU avait souligné en 2020, à l'occasion des 20 ans de la loi SRU, que près de la moitié des 1,8 million de logements sociaux produits, construits en France, l'avaient été en commune déficitaire. Au bilan à 25 ans, alors modulo la réalisation de l'année 2025, c'est une dynamique qui se confirme. Entre 2002 et 2022, c'est-à-dire le dernier bilan, on a produit sur les communes déficitaires, sur l'ensemble des communes déficitaires, 922 000 logements, qui est à comparer aux 2,05 millions de logements qui ont été autorisés sur cette même période. On attend encore le bilan 2025, qui sera fait début 2026, mais on compte déjà pour 2023 et 2024 de l'ordre de 70 000 logements autorisés, logements sociaux agréés sur les communes déficitaires, auxquels il faudra rajouter l'année 2025 et auxquels il faudra rajouter les autres produits qui ne sont pas des produits qui sont les produits de logements sociaux, de logements locatifs sociaux qui sont agréés mais qui sont par exemple le BRS, un certain nombre d'autres produits, mais on sera sur un trend qui sera, je l'espère, supérieur à la période 2020-2022. Ce que je note, c'est que nous étions environ à 50% de production fléchée vers les communes déficitaires il y a quelques années. Mmh. On est en train de descendre à 40%. Bon. Je ne suis pas sûr que ça soit nécessairement une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on a quand même un mécanisme qui fonctionne et des communes qui sortent du dispositif et qui continuent à produire. Donc nécessairement, on a une répartition qui est en train de varier. Quand on regarde, on a fait l'exercice pour l'occasion, quand on regarde sur les 740 communes qui étaient historiques, qui étaient les premières communes qui ont eu des objectifs de rattrapage en 2002. Ces communes, aujourd'hui, 260 dépassent l'objectif initial, qui était de 20%. Seulement, et c'est un fait, seulement 72 dépassent l'objectif actuel de 25%. Néanmoins, le taux moyen sur ces communes qui étaient... Le taux moyen de la part moyenne de logements sociaux sur ce petit périmètre des communes initiales qui était 9% de logements sociaux, il est aujourd'hui 18% de logements sociaux. C'est des communes à qui il manquait, quand on a voté la loi il y a 25 ans, à qui il manquait 440 000 logements pour atteindre les 20%. Mmh. Ces communes en ont produit 650 000.
Elles sont pas restées inactives, c'est le moins qu'on puisse dire.
Elles sont pas restées inactives, et c'est aussi le sujet de la loi SRU, de la loi 3DS, pardon. Et c'est pour ça qu'on a aussi réfléchi au mécanisme de rattrapage. C'est que finalement, plus les communes produisaient, plus le nombre de résidences principales, c'est-à-dire le dénominateur, augmentait, et donc plus l'objectif avait tendance à s'éloigner. Ce qui était quelque part un peu décourageant pour les communes aussi. Encore une fois, je suis résolument optimiste. J'observe que sur ces communes, le taux a doublé, qu'on a quand même des communes, les plus grosses communes, qui sont en train de... qui atteignent 25%, ou qui vont l'atteindre dans quelques années. Le trend était prévu pour 2025. On est en 2025, on verra ce qu'il en est dans les quelques années. Voilà.
Benoît, le sujet est passionnant et le temps passe vite malheureusement, et il nous reste encore quand même quelques questions à vous poser. C'est quoi les principales difficultés aujourd'hui rencontrées par les communes justement ?
C'est un peu ce que j'indiquais, on est sur un changement de profil des communes. C'est-à-dire qu'on avait initialement des grandes communes, déficitaires, SRU, dans des grands pôles d'agglomération. On voit une évolution du profil des communes, qui correspond aussi à l'évolution du profil de la demande de logements sociaux, qui sont des communes qui rentrent dans SRU du fait de changements de seuil de population, c'est-à-dire qui passent au-dessus de 3500 habitants, ou 1500 en Ile-de-France, ou qui sont rattachées à des unités urbaines. Et donc nous, le principal défi, la principale difficulté, mais qui est aussi le principal défi, c'est comment demain on accompagne des communes qui sont peut-être pas aussi bien outillés que des grandes agglomérations pour produire, pour mobiliser de l'ingénierie, pour prendre en compte aussi les risques, pour changer, et je mets une petite étoile à changer, je vais y revenir tout de suite, changer peut-être le modèle de développement à des communes qui ont mis beaucoup d'années à atteindre 3500 habitants et à qui on demande de produire. Et je reviens sur le changer le mode de production. Ça veut dire aussi quelque part nous, contraints par nos sujets de sobriété foncière, qui est un sujet fondamental, contraint par la cherté du foncier, il faut aussi qu'on réinvente avec les bailleurs et avec les communes un nouveau modèle de production de logements, plus orienté sur le recyclage du bâti, sur la reconstruction de la ville, sur la densification, c'est les dents creuses, c'est l'acquisition-amélioration, c'est la surélévation, je fais un peu de pub pour moi-même, la DHUP va produire d'ici janvier un guide sur la surélévation pour montrer aux bailleurs ce qu'il est possible de faire. C'est aussi, je ferme la petite pub pour moi-même, c'est aussi des questions de coûts de production. Il faut qu'on réinvente un modèle pour continuer de produire des logements à 5 ou 6 euros le mètre carré pour des ménages les plus fragiles, mais être capable d'équilibrer des opérations avec des produits qui tournent bien, du LLI, du BRS, revoir un peu ce modèle d'équilibrage d'opération, et puis accompagner ces communes nouvelles qui rentrent dans le dispositif, et puis maintenir aussi un niveau de production important dans les communes qui atteignent 25%. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans les agglomérations les plus tendues, 25%, c'est une règle minimale pour les communes, mais à l'échelle de l'agglomération, il faut sans doute aller chercher un peu plus cher. Encore une fois, le sujet, c'est 2,8 millions de demandeurs de logements sociaux.
Est-ce que la crise du logement qu'on est en train de vivre actuellement met en péril ou en tout cas en difficulté l'objectif de la SRU ?
Bien sûr. La crise qu'on est en train de vivre, les deux crises qu'on est en train de vivre mettent en difficulté l'ensemble du secteur. Pour moi, on a une crise qui est structurelle, la cherté du foncier, les limitations d'artificialisation des sols qui sont tout à fait légitimes. La question du ZAN est une question de biodiversité, c'est une question d'émissions de carbone, c'est une question de risque, de ruissellement, enfin c'est un vrai sujet important pour l'avenir qui s'impose à nous. Je veux pas parler de contraintes, mais c'est un beau défi. Et donc on a ce sujet structurel de rareté du foncier. On a ce sujet aussi conjoncturel d'augmentation des taux, de coût de la construction, qui nécessite aussi qu'on réfléchisse à peut-être d'autres modes de production. Je crois beaucoup au modulaire. Je crois beaucoup à la construction hors site. Je pense qu'il faut qu'on... Bien entendu, la crise actuelle impacte l'ensemble du secteur, la production sociale, en commune déficitaire, peut-être plus parce que les fonciers sont plus chers, mais la promotion au sens très large, la construction au sens très large, et il faut qu'on soutienne le secteur. Ouais. Voilà.
Donc, en clair, le message, si j'ai bien compris, c'est de dire que cette crise du logement ne va pas remettre en cause l'objectif de la loi SRU, mais peut-être vous obliger, par contre, à évoluer.
Bien sûr, et au contraire, la crise... accentue le besoin de produire des logements sociaux et comme le sujet, et je crois que là-dessus tout le monde est d'accord, il y a une sorte de consensus, le sujet ce n'est pas de produire plus de logements sociaux dans les communes qui sont déjà très 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 dotées, c'est plutôt d'avoir une approche équilibrée. On a un sujet de mixité sociale qui est un sujet qui dépasse largement, je crois, le strict sujet de la production de logements, qui est un sujet de société auquel on croit beaucoup à la DHUP. Et donc ça renforce au contraire la nécessité d'insister sur nos objectifs SRU, mais aussi d'être assez honnête avec nous-mêmes quand on regarde des communes, quand on regarde les difficultés des communes, et d'accepter que bah il y a des difficultés, elles sont réelles, et que si c'était si facile, le problème de la crise du logement serait résolu depuis pas mal d'années, ce qui n'est pas le cas.
Évidemment. Allez, ultime question, Benoît. Quel dispositif d'accompagnement existe pour aider justement les communes à atteindre les objectifs SRU?
Alors, il y a beaucoup de mécanismes. Il y en a un en particulier qui me tient à cœur, mais je vais peut-être passer assez rapidement dessus. Ça sera l'occasion pour nos auditeurs d'aller écouter la radio qu'on a fait à l'USH, au congrès de l'USH sur les contrats de mixité sociale. Aujourd'hui, pour moi, il y a beaucoup d'outils qui existent, et c'est pour ça que je parle d'accompagnement des outils de l'urbanisme, les clauses de mixité, les emplacements réservés, les contractualisations, etc. etc. Si je dois insister sur une chose, je crois, c'est la question de la stratégie foncière. Il faut qu'on puisse accompagner les collectivités, d'autant plus les petites collectivités qui rentrent dans SRU, mais pas seulement pour des questions de SRU, pour des questions de développement de leur territoire. Il faut qu'on puisse accompagner la création de, enfin, l'émergence de stratégies foncières locales sur lesquelles nous, on saura venir greffer des dispositifs, on saura venir accompagner avec des établissements publics fonciers, d'aménagement, que sais-je, avec des financements. Mais la première étape, pour moi, c'est comment on accompagne les maires pour avoir des stratégies foncières à long terme qui sont cohérentes. Et cette vision du territoire, pour moi, elle est nécessairement à définir localement. Voilà, c'est le point sur lequel il faut vraiment insister. Ça sera un sujet pour SRU, enfin, ça sera une aide pour SRU, ça sera une aide pour la production, ça sera une aide pour donner de la visibilité, pour que peut-être le ZAN soit aussi vu comme une opportunité d'avoir une vision un peu claire de ce qu'on veut faire sur un territoire, plutôt que comme il est perçu aujourd'hui, d'une contrainte. Mais c'est vraiment là-dessus, je crois, qu'il faut insister. Aujourd'hui, stratégie, comment on accompagne les collectivités pour caser une stratégie foncière simple. Derrière le mot stratégie foncière, je le précise, après je m'arrêterai, j'y mets les frontières urbaines qu'il faut préserver, les zones urbaines qu'il faut faire muter, les zones qu'il faut densifier, la reconstitution de l'existant, la remobilisation de l'existant, c'est ce sujet-là, des centres-villes, etc.
Et puis on accompagne aussi les bailleurs sociaux.
Qui ont envie de faire. Qui ont envie de faire. Les communes aussi ont envie de faire. La plupart ont envie de faire. On accompagne aussi les bailleurs sociaux qui sont confrontés à des impératifs d'investissement massifs. On leur demande 130 000 rénovations énergétiques par an, c'est-à-dire des sauts d'étiquette. C'est un sujet important. On compte aussi s'appuyer sur eux parce que c'est 5,5 millions de logements et ces 600 acteurs s'appuyer pour eux pour développer une filière. L'objectif de la France internationale, c'est de rénover quasi intégralité du parc d'ici 2050. Il faut qu'on donne les moyens d'y arriver. C'est aussi des objectifs de production ambitieux, 120 000 logements. Les bailleurs sont motivés, les communes, la plupart des communes sont motivées. Il faut qu'on puisse les accompagner. On a beaucoup de beaux défis, des acteurs volontaires. On a des difficultés, mais on va y arriver. Je suis confiant.
Eh ben c'est très bien. On retiendra ce message-là, la confiance. Merci, Benoît, d'avoir gentiment répondu à mes questions. Hélène, évidemment, je me tourne vers vous à présent pour savoir si, et j'imagine que oui, s'il y a des questions sur le chat.
Jean-Baptiste, elles sont nombreuses ce matin. Je partage la première question pour Benoît. Est-ce qu'il pourrait être envisagé à l'avenir de fixer des objectifs de LLS aux communes petites villes de demain qui ne seraient pas encore aujourd'hui dans le dispositif?
De fixer comme, alors je comprends peut-être, je vois deux options sur la, je vois deux options de réponse sur ce qu'on entend par fixer. SRU, je le dis, c'est pas parce qu'une commune n'est pas dans SRU qu'elle a pas à produire des logements sociaux. Je crois que la première, et c'est pas parce qu'une commune a atteint 25% qu'il faut arrêter de produire des logements sociaux. Je le redis. Aujourd'hui, on est sur 2,8 au 31 décembre dernier sur 2,8 millions de demandeurs. Le chiffre va sans doute augmenter quand on aura le bilan à fin décembre. SRU n'est pas l'alpha et l'oméga de la production de logement social, bien heureusement. Et bien sûr, il faut encourager les communes à produire, même quand elles sont pas dans le dispositif. notamment si ces communes sont un jour appelées à rentrer dans un dispositif. C'est toujours mieux pour une commune de rentrer dans SRU à 10% qu'à 0%. La marche est moins haute, les process sont mis en place, les relations entre les bailleurs et la mairie existent, c'est toujours mieux. Oui, bien entendu, dans les petites villes de demain, il faut qu'il y ait une part de logements sociaux, qui est peut-être pas de 25%, ça dépend, enfin... En fait, il n'y a aucune situation qui est comparable, mais oui, il faut fixer. Enfin, il faut fixer. Il faut encourager les communes à faire. Je suis pas sûr qu'on soit toujours obligé côté État de rentrer dans ce mécanisme de incitatif coercitif qui est quand même conçu initialement pour des zones qui sont particulièrement tendues et où le besoin est réel.
Une autre question, Hélène.
Je poursuis sur le sujet des exemptions. Comment elles sont revues? Là, notre auditeur partage une situation sur des communes nouvelles agrégées de plusieurs villages qui forment du coup une entité qui dépasse les 3500 habitants.
Oui. Alors, sur les mécanismes d'exemption, on a aujourd'hui trois mécanismes qui existent. On a un mécanisme lié à l'inconstructibilité, c'est-à-dire que si plus de 50% du territoire urbanisé de la commune est inconstructible, la commune est exemptée, n'a pas d'obligation. On a un mécanisme de faible tension, c'est-à-dire qu'on regarde finalement la part de demande sur la part d'attribution et si ce ratio est en dessous de 2, désolé pour la technique, on considère que la commune est faiblement tendue et on ne lui demande pas de produire plus. On a un autre mécanisme qui est un mécanisme d'isolement et de faible attractivité, c'est-à-dire que des communes qui sont un peu isolées, et je crois que c'est un peu le cas aujourd'hui des communes nouvelles qui sont la fusion de plein de petits hameaux, des communes qui sont un peu isolées et qui sont faiblement attractives, on considère qu'il n'y a pas lieu de produire 25% de logements sociaux. La question je m'arrête un peu sur cette question parce que je sais que c'est une question qui interroge beaucoup nos partenaires et notamment les représentants des communes. Aujourd'hui, les communes nouvelles qui sont la fusion de plein de petites communes, l'État est quand même assez clémente, je crois, avec elles sur les propos, sur la fixation des objectifs et sur la lecture des et sur la lecture de l'isolement et de la faible attractivité. On est prêt à étudier tous les cas qui existent. Après, des fusions de communes qui sont dans des territoires tendus, il y a aussi un moment où je pense qu'il est légitime de dire à des communes. Parce que la nouvelle commune a une composition qui est un peu équivalente à une commune qui préexistait et qui fait ses 5000 habitants, il est aussi normal à un moment de se poser la question de la réponse dans ces communes nouvelles à la demande qui s'exprime.
Une troisième question.
Oui, alors je poursuis. On a un auditeur qui se pose la question sur la part des résidences secondaires. Est-ce que c'est compris dans le calcul de l'objectif SRU?
Non. Le calcul SRU est le nombre de logements sociaux sur le nombre de résidences principales et donc exclut à la fois les logements vacants et les résidences secondaires.
Allez, une ultime question pour la route.
Une dernière, oui. Quelles sont les conséquences du constat de carence?
Alors, les conséquences du constat de carence sont multiples. La première conséquence, c'est l'augmentation du prélèvement, c'est-à-dire la majoration du prélèvement aux communes qui peut aller jusqu'à x4. Jusqu'à 400%, c'est-à-dire x5. 400% de majoration, ça finit un prélèvement x5. Les autres conséquences sont notamment la reprise par le préfet du droit de préemption urbain, qui est un levier important. Le préfet peut, c'est pas automatique, mais peut reprendre l'instruction des permis de construire. Voilà. Je sais les principales, il y en a d'autres, il y a notamment une qui marche bien, l'obligation dans tous les projets, dans les communes carencées, l'obligation dans tous les projets de plus de 800 mètres carrés ou plus de 12 logements, d'inclure 30% de logements PLAI et plus. Voilà. Les principales mesures.
Un grand merci, Benoît,
merci à vous.
Pour ces réponses complètes. Benoît Chantoiseau, directeur de la mission d'appui SRU. Merci, Hélène.
Merci Jean-Baptiste.
On se retrouve l'année prochaine.
Oui, c'était la dernière de l'année. On se retrouve le 6 janvier à 11h.
Bon, eh bien, joyeuses fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Merci Benoît encore une fois. Merci également chez vous de nous avoir suivis.
Merci à vous et très bonne journée.
Ouais, très bonne journée Benoît. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment l'intégralité de cette émission en podcast sur le site et l'application de Radio Territoria. Merci de votre fidélité et à très vite. Ciao, ciao, salut.
Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.